jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Il est l'homme fort du Moyen-Orient. Ce soir, nos invités nous racontent Mohamed Ben Salman, le grand réformateur de l'Arabie Saoudite. Merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Tous les chemins que vous n'avez jamais empruntés, toutes les étoffes que vous n'avez jamais portées, toutes les saveurs que vous n'avez jamais goûtées, toutes les mélodies que vous n'avez jamais entendues. Bienvenue dans un monde que vous n'avez jamais imaginé. Bienvenue en Arabie.
Depuis qu'il en est devenu le nouvel homme fort, Mohamed Ben Salman, que l'on appelle également MBS, œuvre et réforme en profondeur pour montrer au monde un nouveau visage de l'Arabie Saoudite, bien loin du wahhabisme savamment entretenu par ses prédécesseurs. De sa jeunesse dorée, passée dans les palaces de Paris ou de Cannes, à son obsession sécuritaire en passant par ses caprices culinaires, portrait ce soir du nouveau maître du Moyen-Orient. Christian Cheneau, Georges Malbruno, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Merci
bonsoir.
D'être là tous les deux. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et vous signez le livre passionnant MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient aux éditions Michel Lafon. C'est passionnant parce qu'on découvre à la fois une société en mutation, un pays en progression, mais on va voir, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup d'esprit conservateur derrière la politique appliquée par MBS. Et on découvre aussi un personnage. Voilà. MBS, Mohamed Ben Salman, est un personnage. On file donc en Arabie Saoudite avec vous. Vous allez nous raconter ce pays qui s'y colle là, pour nous raconter ce géant du monde
l'Arabie,
arabe.
L'Arabie, c'est un peu un pays continent. Hein. C'est quatre fois la France, 35 millions d'habitants, au cœur du Moyen-Orient. Le pays est connu pour son pétrole, ses immenses richesses en pétrole, premier exportateur mondial de brut. Les lieux saints de la Mecque et de Médine, donc un phare de l'islam. Et puis cette dynastie des Saouds qui sont au pouvoir depuis 200 ans. Et là, vous avez le rejeton qui est un peu le nouveau prince du 21e siècle et qui est écrase un peu tout sur son passage.
Un petit rejeton qui a vraiment pris le pouvoir et les pleins pouvoirs. Georges Malbruno, je disais, c'est un pays en pleine mutation. Aujourd'hui, on est en train de découvrir un nouveau visage de l'Arabie Saoudite.
Ah, complètement. L'Arabie Saoudite de 2024 ne ressemble en rien à celle d'il y a 10 ans, 12 ans, où vous aviez toutes les femmes devaient porter l'abaya, hein, cette longue tunique noire, si possible, sur le corps. Elles ne pouvaient pas travailler. La police religieuse, avec leurs bâtons, allait justement surveiller les femmes qui portaient mal l'abaya, surveiller les commerçants qui ne fermaient pas leurs rideaux pendant les heures de prière. Aujourd'hui, vous arrivez à l'aéroport de Riyad, de Jeddah, vous avez une jeune saoudienne qui vous dit « welcome », elle vous donne le visa quand vous êtes touriste, vous sourit, l'abaya est tombée, elles sont plutôt jolies les saoudiennes, donc c'est agréable, et elles ont envie de participer à ce mouvement de modernisation, effectivement, qui est important. Donc effectivement, au-delà de ça, il y a une vraie révolution sociétale et économique, on en reparlera probablement, dans un vieux pays, comme Christian l'a dit, qui était un pays, c'était une espèce de mini-empire du milieu.
Voilà. Comment ça fonctionnait avant? Parce que même ce que vous nous racontez, l'histoire des princes, polygamie, ils ont 54 enfants, enfin
C'était une alliance entre cette famille des Saouds, une grande tribu, et puis un prédicateur, Mohamed Abdel Wahhab, au XVIIIe siècle, et ils ont géré l'Arabie donc entre le sabre et le Coran, avec des princes. Les princes, ils sont entre 5 et 10 000, et comme ils sont très riches, ils vivaient de leur rente, et le pays vivait un peu au rythme du pétrole, et il se passait rien, il y avait une espèce de monde du silence, et là, comme on disait, on est passé, en gros, du noir et blanc à la couleur, avec MBS. Et là, l'Arabie s'est réveillée, et avant, c'est vrai que si vous étiez à Riyad, il y a même 7-8 temps. C'était glauque. La musique était interdite dans les restaurants. La ségrégation sexuelle, en tout cas des sexes, dans l'espace public, privé, dans un bureau, on n'aurait pas pu, comme ça, à la radio, cohabiter des hommes et des femmes.
Je n'aurais même pas pu vous interviewer.
Exactement, on n'aurait pas pu. Cette police religieuse, évidemment, l'alcool. Bon, voilà, donc c'était vraiment une chape de plomb. On était quand même quasiment presque chez les talibans, hein, à un moment donné.
Quel mot est-ce que vous choisiriez pour résumer MBS? Alors, déjà, trois lettres. Déjà, MBS pour Mohamed Ben Salman.
Oui, Georges Malbruno. Un mot n'est pas suffisant. Oui. Deux qui peuvent apparaître contradictoires, mais qui ne le sont pas forcément. Autocrate et modernisateur.
C'est marrant. C'est ce que l'on ressent dans votre livre. Et c'est même difficile, finalement, pas de se faire une opinion, vous voyez ce que je veux dire, mais quelque part, votre livre pose, c'est à la fois très progressiste, très réformateur, et en même temps, il s'y passe encore des choses.
C'est pour ça qu'on utilise un peu à un moment la métaphore des califes, Bagdad et Damas, donc, je veux dire au Moyen-Âge, et c'est évidemment le sabre, aucune tête ne doit dépasser, pas de droit à la critique, vraiment, si vous critiquez un tweet, vous allez en prison, et en même temps, eh bien, la grandeur arabo-musulmane, la musique, et alors lui, il est dans l'hypermodernité, c'est-à-dire le numérique, le sport, enfin voilà.
C'est un sacré personnage, je disais tout à l'heure.
Il est fascinant, il est contradictoire, et il est difficilement incertain, parce que c'est un pur produit d'Arabie Saoudite. C'est un bédouin pur, et pourtant qui se projette dans le XXIe siècle.
Sa fortune, elle est estimée à...
Oh bah, elle n'est pas connue, mais elle n'est pas estimée, parce que sa fortune, c'est un peu Louis XIV, l'État c'est moi.
Ce sont des milliards de dollars.
Le fonds souverain, le PIF qu'on appelle, c'est sa cagnotte, donc effectivement, il a une fortune
considérable.
On est dans un monde de la démesure, en Arabie, on le racontera.
Et il vit dans la démesure.
Il vit dans la démesure, les palais, etc., l'obsession sécuritaire. Voilà.
Mais tout ce que vous nous racontez là en dit long sur un homme et sur le pays auquel il s'attache à faire voir le jour, à éclore, je dirais. Est-ce que le monde d'aujourd'hui ou le monde de demain va devoir compter avec MBS ?
Ah, complètement.
Il
a déjà commencé de devoir compter avec lui. On en reparlera, il y a eu l'épisode de Khashoggi, horrible assassinat d'un dissident.
Journaliste.
2018, 2021, les grands dirigeants de ce monde, Boris Johnson d'abord, Emmanuel Macron ensuite, Joe Biden, qui voulait en faire un paria, sont allés à Canossa pour, si vous me permettez l'expression, lui baiser les babouches, à Jeddah, parce que l'Arabie est incontournable au plan énergétique et même au plan diplomatique.
C'est un pôle de stabilité dans la région. Quand vous regardez autour, l'Iran, la Syrie, la Palestine, Israël, le Soudan, l'Égypte en faillite, le Liban, c'est le seul grand pays... pôle de stabilité, qui a un horizon, qui a énormément d'argent. Ça, c'est vraiment la base. Le fonds souverain, il veut l'avoir 2000 milliards de dollars en 2030. C'est le plus grand fonds souverain au monde.
C'est le projet 2030.
Donc forcément, ça fait saliver tout le monde.
Et le projet 2030 dont vous parlez, c'est plus de 500 milliards de dollars d'investissement pour les sociétés étrangères. Donc quand vous êtes un président de la République française ou un grand patron d'une société, vous n'êtes pas patron d'Amnesty International, vous ne pouvez pas faire une croix sur l'Arabie Saoudite.
Messieurs, vous restez avec moi, avec nous, nos auditeurs, on est ensemble. Mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite aussi, il y a plein de jeunes qui nous écoutent et qui en ont entendu parler parce que c'est devenu le nouvel Eldorado du foot qui accueillera aussi la Coupe du Monde. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous raconter l'enfance d'un prince. Vous allez voir, c'est passionnant, à tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ils sont là tous les deux, on n'a pas résisté. Ils sont là pour nous parler de MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Ça vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Les grands reporters Christian Chesneau et Georges Malbrudon sont nos invités. Je me disais, ça doit être trop sympa en fait de dîner avec vous, messieurs. Non mais parce que... c'est pas une invitation à dîner, mais c'est tout comme. Mais non, mais c'est parce que vous êtes, je sais pas, vous vivez finalement les sujets auxquels vous vous attaquez.
C'est passionnant, l'Arabie Saoudite, le Qatar. On a beaucoup travaillé sur le Qatar parce qu'effectivement, c'est des pays assez lointains qui nous connaissent très bien, qui sont à Paris, qui possèdent des grands hôtels, qui viennent ici, qui débarquent sur les Champs-Élysées l'été, qui sont à Cannes.
Mais est-ce que c'est compliqué de mener une enquête sur quelqu'un comme Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, je le précise pour ceux qui nous rejoindraient.
C'est compliqué parce que, comme on l'a dit, il dirige son pays d'une main de fer. Il y a eu l'épisode sombre de l'assassinat de Jamal Khashoggi.
En 2018.
Donc les Saoudiens ont peur de parler chez eux. Les diplomates étrangers, les étrangers aussi, un peu moins. Mais on peut quand même rencontrer, on a rencontré des Saoudiens à l'extérieur ou des gens qui ont travaillé pour lui et qui nous ont raconté justement son enfance au Plaza à Paris.
Racontez-nous l'enfance de MBS. Parce qu'il a un lien particulier avec la France. On parlera de son lien avec Emmanuel Macron plus tard dans l'émission. Mais la France, il la connaît bien.
La France, il la connaît bien parce que MBS, avec sa mère, la princesse Fahadat, venait tous les étés à partir de 1999, passer un mois entre le Plaza et le Majestic à Cannes. En 99, il avait 14 ans. De 14 à 18 ans, il est venu un mois. Et donc,
il ne voyageait pas léger.
Il ne voyageait pas léger quand ils arrivent au Majestic en 2000 pour la première année. Donc le Majestic se frotte les mains parce que c'est 200 chambres réservées. Donc c'est presque, je dirais, la recette de l'année. 200 chambres, MBS, fils aîné de la princesse Fahadat, on lui donne la plus belle chambre, la suite impériale, la princesse de la Suisse royale, MBS et les 180 personnes, ou pas forcément 180 parce qu'ils ne sont pas tous arrivés, prennent possession de leur chambre. Et le jeune Mohammed bin Salman, donc le Majestique est très content, le jeune prince fait, comme nous l'a dit un membre du Majestique, un caca nerveux.
Alors là, il a un gros problème.
Il y a
quand
un
même.
Gros problème, et donc on lui dit, mais quoi, le travel manager, donc le monsieur qui s'occupe des voyages de MBS, fait passer le message et dit, le prince, sa télévision géante dans sa suite n'est pas assez grande. Donc, si vous n'en trouvez pas une autre, demain, on part tous. Et donc, panique au Majestic. Alors, on se dit, c'est pas possible. Et donc, il y a un monsieur qui a une idée au Majestic. On va aller à Nice. Il y a un grand magasin. Et il trouve, effectivement, ils emmènent MBS dans une camionnette avec deux, trois personnes.
Donc là, le prince, milliardaire, qui se retrouve dans la camionnette pour aller
trouver,
chez Darty.
Par trouver un écran encore plus géant. Il le ramène. Il graisse la patte un petit peu de la caissière et du directeur du magasin. Et puis, MBS est content, il a son écran géant, il peut continuer de jouer aux jeux vidéo
parce que c'est l'une de ses passions.
Et puis il faut dire aussi, alors, encore une fois, quand la cour royale se déplace, c'est 1000 personnes. Ouais. Et puis il faut rappeler, à Cannes, bon, il vient à l'hôtel, mais il a un palais à Valoris. Le père a son grand palais à Valoris. Il a maintenant, donc, le fils, Mohamed Ben Salman, a son palais à Louvciennes.
C'est la maison la plus chère du monde à Louvciennes.
Ouais, oui.
Non, mais il faut le dire, il a acheté un château, mais.
Ça s'appelle le château Louis XIV.
Exactement, qu'il a fait complètement rénover parce que déjà la décoration intérieure ne lui convenait pas.
Donc à l'époque, c'est quelqu'un, alors faut dire aussi physiquement, MBS est quelqu'un de très grand.
1m90,
c'est un colosse, c'est un peu un gros nounours quand il était jeune ado, donc il aimait beaucoup les jeux vidéo. Il n'était pas dans les trucs très, comment dire, extrémistes, c'est-à-dire que beaucoup de princes avaient une vie un petit peu débridée, dans les boîtes de nuit, l'alcool.
Bah, on a entendu parler de certains princes du Moyen-Orient qui viennent à Paris avec des voitures de gros calibre et qui foutent le bordel dans Paris.
Il était plus de ça, il aimait beaucoup ces jeux vidéo, la junk food, les hamburgers, mais c'était pas un fêtard débridé, quoi.
Voilà. C'était un monsieur un peu balourd, un peu colérique, qui était un pur produit de l'Arabie Saoudite. Il ne parlait pas l'anglais, un pur bédouin.
Alors, un pur bédouin qui, en même temps, donc, a été élevé dans le goût du luxe et dans la facilité. Un goût du luxe qui n'a pas perdu. Vous parliez de son appétence pour la junk food. Il a un petit peu revu ses goûts à la hauteur. Maintenant, il a mangé des huîtres et du bœuf wagyu. Mais il n'y en a pas en Arabie Saoudite.
Donc, il fait venir de Dubaï par jet spécial, tous les 15 jours. Et ça, on a eu quelques sources à l'intérieur qui nous ont un peu révélé.
Des huîtres de chez nous.
Voilà. Et surtout, il a son majordome, Louis, un Brésilien.
C'est un bon plan d'être majordome de
320
MBS.
320 000 euros par mois, 4 millions par an, qui est un peu l'homme à tout faire, qui est le plus proche de MBS, qui peut lui dire la cravate, ça va pas.
C'est le seul qui peut lui parler comme ça.
Dont l'existence est très peu connue parce qu'on est dans le cercle rapproché. Donc voilà, on a eu des informations quand même savoureuses.
Voilà. Et c'est lui qui dit, le prince aime les huîtres, il a fait une découverte en Europe, on va lui en faire venir depuis Dubaï, donc tous les 15 jours, il y a une rotation d'un jet, il lui amène ses huîtres Gilardo.
Et du bœuf wagyu. À 600 euros le kilo.
Est-ce qu'il était prédisposé quand même à succéder à son père et à diriger un pays? Parce que ce que vous nous racontez, c'est l'histoire d'un gamin, pardon, mais pourri gâté, qui vit dans l'opulence.
C'est pas un intellectuel, c'est pas un type qui veut le pouvoir.
Il n'a pas été formé finalement. D'ailleurs, il n'était pas.
Contrairement à ses demi-frères, il n'a pas étudié aux États-Unis, il n'a pas fait de grande école militaire comme souvent les fils d'émirs dans le Golfe font. Lui, c'est un pur produit de l'Arabie, c'est un pur bédouin. Et alors, effectivement, on peut se poser la question, mais pourquoi son père, finalement, l'a choisi pour diriger ce pays? Eh bien, il faut se souvenir d'une phrase que son grand-père, le fondateur de l'Arabie moderne, Ibn Saoud, en 1932, a prononcée, qui est aussi la référence de MBS. Quand on se promène dans les rues de Riyad, il y a des grands portraits, on voit MBS, son père, le roi Salman, et Ibn Saoud. Eh bien, Ibn Saoud disait, pour diriger des bédouins, il faut un bédouin, et non pas quelqu'un qui a étudié à Stanford, à Berkeley ou à la Sorbonne. Il faut un bédouin pour comprendre cette société qui est très particulière. Donc, c'est en grande partie pour ça que MBS a été choisi, parce que lui, justement, quand il avait 17-18 ans, au lieu d'aller étudier à l'étranger, il a suivi son père. Il était dans le sillage constamment de son père, et c'est comme ça qu'il a été éduqué à l'Arabie Saoudite, à son pays.
Que Mohamed Ben Salman, 38 ans, richissime, vous l'avez compris, est à la tête aujourd'hui donc de l'Arabie Saoudite. Mais ça ne s'est pas passé non plus si facilement que ça. Et ça, on va le raconter à nos auditeurs. Il est en pleine forme là, Christian Chéneau. On va le raconter à nos auditeurs dans un instant. Coupez-moi les micros là, des invités. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Christian Chéneau, Georges Malbruno sont nos invités avec eux. Donc on parle de celui dont le nom se résume en trois lettres. Mais il y a tant à dire parce que le monde de demain va devoir composer avec lui. Il s'agit du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. 38 ans, parvenu donc à la tête d'un pays alors qu'il n'était pas prédisposé à tenir ce rôle. Christian Chéneau, il était, vous l'avez dit, différent de ses frères qui ont fait des études, qui ont suivi un parcours dont on aurait pu se dire que c'était celui qui allait mener justement, on peut dire le trône, hein, on parle d'une,
oui, c'est une sorte
de
trône,
mais lui en fait il a pigé un truc, c'est qu'il fallait connaître le pays, il fallait être un bédouin parmi les bédouins, et donc il a suivi ceux qui pouvaient vraiment lui apprendre à régner.
Oui, alors c'est d'abord son père, mais surtout il a éliminé ses rivaux, et son rival principal, parce que lui il arrive, c'est le numéro 3, quand son père prend le trône, donc en 2015, lui il est le numéro 3. Entre son père et lui, il y a un certain Mohamed Ben Nayef, qui est un cousin, hein, et qui est lui, vraiment, le favori des Américains, des Occidentaux, parce que c'est lui qui a lutté contre Al-Qaïda, le terrorisme, et c'est quelqu'un qui a 56 ans à l'époque, et qui est vraiment celui qui est programmé pour être roi. Et lui, MBS, va tout faire en coulisses pour lui saboter la planche et lui prendre sa place violemment, parce qu'à un moment donné, il va le rafler en 2017 avec l'accord de son père et quasiment menacé pendant une nuit, on raconte dans le livre, où le type est quasiment séquestré, c'est
incroyable.
Quand même le deuxième personnage de l'État, et à la fin, le matin, MBN sort blême et dit, voilà, eh ben, mon successeur, en tout cas, j'abdique au profit de MBS.
Et avec le regard bienveillant de son père, hein, oui, MBS a agi avec l'aval de son père.
Oui, parce qu'il compte aussi, on parle des Bédouins, le plus important c'est ce qu'on appelle les liens du sang, c'est-à-dire les liens familiaux, ça prime sur tout, et effectivement le lien filial c'est fondamental.
Il y a quelque chose quand même, Georges Malbruno, que l'on ressent quand on lit votre livre aux éditions Michel Lafon, c'est qu'on a affaire à un personnage qui est très singulier, qui est bourré de paradoxes. À la fois, on va le voir, il est progressiste et conservateur, il est moderne et rigoriste, et on ne sait pas trop s'il est futé ou un peu pato. Et pourtant, ce qu'on va raconter à nos auditeurs là, c'est plutôt le parcours d'un type intelligent.
Tout à fait. Il était plutôt, comme je vous disais, balourd quand il avait 15 ans, mais ensuite, il s'est formé au contact de son père, et il y a 7-8 ans de cela, lorsqu'il a été nommé prince héritier en 2017, il ne parlait pas l'anglais, maintenant il parle très bien l'anglais, et il a une vision, il est intelligent, il a une grande mémoire, les personnes, les consultants américains et autres qu'on a rencontrés, qui le voient, nous disent il est très percutant.
Donc, il a été stratège,
oui, et puis il est entouré, encore une fois, je vous le dis, des meilleurs consultants, des meilleurs cabinets américains, il comprend vite les choses. Donc voilà, mais c'est un Saoudien aussi, il n'est pas suédois ou il n'est pas français. Et donc, il l'a bien dit d'ailleurs en 2018, lorsqu'il a dit devant un parterre d'hommes d'affaires, nous n'allons pas nous poser la question au cours des 25 prochaines années de savoir si la musique c'est halal ou si c'est pas halal, autorisé ou pas. Il a dit, on est l'Arabie Saoudite, un pays conservateur musulman, les femmes dont on parlait tout à l'heure, on en parlera peut-être, moi, quand j'y suis allé ou quand j'y vais, c'est vrai, on les voit avec des abayas colorés maintenant, largement derrière la tête, mais je leur dis, mais pourquoi vous l'enlevez pas carrément? Alors elles me disent, mais on les garde, pour l'essentiel d'entre elles, parce que on est encore dans une société conservatrice, et si je ne suis pas mariée en tant que jeune femme, si je veux me marier, si je veux me présenter à un homme qui me plaît, faut pas que je me présente en jean, en t-shirt moulant, etc. On est encore dans l'Arabie Saoudite. Donc il y a ce mélange, et MBS incarne un petit peu cette transition entre un pays archaïque et un pays qui aujourd'hui est en passe de devenir un pays moderne.
Je voudrais qu'on parle de la stratégie.
Oui, parce que je pense que pour comprendre MBS, il y a un moteur, c'est la revanche. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a dit, c'était pas un prince qui était éduqué, qui était grandiose, qui avait étudié à l'étranger. Il était un peu balourd.
Voilà.
Et donc, il y a une soif de revanche personnelle sur les autres princes qui payait le trône, qui faisait des soirées, etc. Et donc, il aura fait finalement...
Il a mis les princes du royaume au pas.
Exactement.
Voilà.
Il a
maté tout le monde. Alors, expliquez-nous, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la purge du Ritz-Carlton.
Oui, c'est-à-dire qu'en 2017, à l'automne 2017, il va faire une rafle, on peut appeler ça une rafle, 400 princes, VIP, ministres, hommes d'affaires, qu'il accuse d'avoir pillé les caisses du trône, parce qu'il y a eu beaucoup de corruption, parce qu'il y avait des milliards. Là-bas, on brasse des milliards. Et là, c'est l'heure de sa revanche. Hein. C'est-à-dire que le petit prince que personne ne voyait venir, eh ben, il dit, c'est moi le patron. Et là, il va mettre le couteau sous la gorge, littéralement, le revolver. Oui. Et il va récupérer 100 milliards de dollars parce que les gens vont devoir signer des reconnaissances de dette. Certains sont encore en prison, certains ont encore des bracelets électroniques, comme le fameux prince Walid Ben Talal.
Hein, 45e fortune mondiale, voilà, qui aurait été torturé.
Voilà, qui a eu quelques effectivement entretiens musclés, d'ailleurs par des Américains. Voilà. Mmh. Et donc, pour MBS, il y a la revanche personnelle, c'est-à-dire je prends le pas sur tous ces gens-là qui m'ont peut-être un peu méprisé, parce que encore une fois, les autres étaient un petit peu flamboyants, moi j'étais un peu terne. Et puis, revanche du pays, on veut être comme tout le monde, on veut que l'Arabie soit reconnue dans le monde entier.
J'invite nos auditeurs vraiment à lire votre livre et à lire ces lignes sur ce que l'on appelle la purge du Ritz-Carlton, parce qu'en fait, ces princes ont été convoqués, piégés, et finalement se sont retrouvés séquestrés, mais certains au Ritz-Carlton, parce que, on reste quand même un prince. Ouais. Quoi, hein.
Cette opération a été approuvée par beaucoup de Saoudiens, notamment les jeunes, qui constituent 60% de la population, et MBS le savait. Les jeunes se disaient... Moi, j'étais à l'époque en Arabie, ils disaient, c'est bien, on en a marre de princes qui s'en mettent plein les poches, etc., qui ont leur jet privé, etc.
On se retrouve dans un instant avec vous, messieurs, sur l'antenne d'RTL. On va poursuivre ce portrait donc de Mohamed Ben Salman. Est-ce que, justement, grâce à tout ce que l'on vient de dire, cette ascension fulgurante et surprise, est-ce que cet homme aujourd'hui a les pleins pouvoirs? Est-ce qu'il est quand même contesté dans son pays? On va se retrouver dans un instant et en parler avec vous sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Dans un instant, on va vous emmener avec nos invités Christian Cheneau et Georges Malo-Bruno dans l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et de demain, voir à quel point MBS dont on parle ce soir, dont on vous dresse le portrait, à quel point cet homme, ce prince héritier, a considérablement changé le visage, l'avenir et le poids de l'Arabie Saoudite. Mais auparavant, messieurs, vous venez de nous expliquer comment celui que l'on n'attendait pas à la tête du pays a finalement pris le pouvoir, et pas de n'importe quelle manière. Il a pris tout le monde par surprise et il a mis tout le monde au pas, et notamment tous les princes qui se disputaient le pouvoir. Donc, est-ce qu'il règne aujourd'hui sans partage? Est-ce qu'il a les pleins pouvoirs, Christian Cheneau?
Quasiment. C'est-à-dire que son père, il a presque 90 ans, il est malade, il est affaibli, donc de facto, c'est lui celui qui préside aux destinées de l'Arabie Saoudite. Donc, le père, on le voit quasiment plus. Donc, le conseil des ministres, c'est lui qui le préside. Là, au moment des cérémonies musulmanes de l'Aïd, c'est lui qui est là. Oui, c'est lui qui est de facto le prince héritier, presque le roi. Il n'est pas encore roi. Hein. Il faut que le père meure. Et il en profite aussi pour accélérer les réformes. Et puis, il sait qu'aussi, dans le sérail, il y a des gens qui lui en veuillent.
Alors, c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, on racontait la purge des princes, la purge du Ritz-Carlton. Mais en fait, à travers cet acte, il a fait un acte populaire, je dirais, parce qu'effectivement, il a montré à la population que les princes n'allaient pas s'en mettre toujours plein les poches. Mais il a fait aussi un acte d'autorité où il a maté, je dirais, où il a voulu mater toute tentative de rébellion. Mais certains doivent l'avoir en travers de la gorge aussi,
Georges
Malgruno.
Oui, mais ils sont chez eux dans leur palais avec un bracelet électronique au pied. Et ils ne peuvent pas sortir du pays. Et donc, ils sont complètement écartés, ils sont probablement verts de rage, mais ils sont impuissants. Et MBS, là où il a été intelligent, c'est que il a pris souvent avec lui leurs enfants. Donc il a écarté,
humilié. Il a divisé finalement.
Il a divisé, il a neutralisé ses princes. Parce que Mohamed bin Nayef, Bandar bin Sultan et les autres, Walid bin Talal sont dans leur palais dépouillés de tout pouvoir, mais leurs enfants souvent travaillent avec MBS. Donc voilà, alors ce qui ne veut pas dire qu'il est confiant et qu'il marche dans la rue, non, il est parano. Il est parano parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le tuer. Et donc on raconte des anecdotes, où on raconte un de ses anciens employés du palais qui dit quand il rentre chez lui, tout le monde sort de sa résidence, les démineurs rentrent, et MBS, à l'issue de leur opération de déminage, peut rentrer, et ainsi de suite. Quand il va déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron, il impose qu'il y ait un homme de la sécurité saoudienne dans les cuisines, parce qu'il est parano, parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'ennemis, et que un de ses aïeux, le roi Faisal, en 1975, qui était aussi un peu modernisateur, il avait voulu autoriser une télé en Arabie Saoudite, et donc son neveu l'a assassiné. Donc il est très 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 prudent.
Donc les opposants se taisent, soit sont en prison, soit c'est à l'étranger. Beaucoup de princes de grande fortune ne veulent pas revenir parce qu'ils ont tout leur compte à l'étranger et ils ont toujours peur de Mohamed Ben Salman, donc ils restent à l'étranger. Les religieux sont sous terre, la police religieuse a été dissoute.
Alors, il faut le dire ça, voilà. Il a considérablement modifié la société saoudienne. Il a prôné un islam modéré, mais ça a été la surprise.
Non, mais surtout, l'Arabie Saoudite, c'était le pays religieux par excellence. Lui, il veut arrêter
arrêter. On exécutait par décapitation
bien
sur
sûr,
place publique.
Enfin, c'est la charia. Comme les talibans. Et donc, il veut raconter une autre histoire de l'Arabie Saoudite, une histoire d'un État-nation. Et donc, il veut remonter dans l'histoire, il veut arrêter de dire que l'Arabie, c'est que la religion. Pour lui, c'est un autre récit, et donc, il veut une autre image, changer et donc, le sport, la musique.
Alors, voilà,
donc,
le sport.
Il veut renouer, finalement, avec la mondialisation et dire que l'Arabie, c'est un pays normal, et c'est plus les wahhabites, la police religieuse, etc., etc.
D'accord, et vous parliez justement du foot. Hein, l'Arabie Saoudite, je le disais, c'est devenu le nouvel Eldorado des joueurs de foot, et va accueillir la Coupe du Monde en 2034
aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont accueilli par exemple Karim Benzema.
Oui.
Et il y a une espèce de paradoxe.
Un petit peu trop Karim Benzema.
Karim Benzema, il est très pieux.
Un peu trop religieux.
Et il poste beaucoup de posts, du moins sur les réseaux sociaux, avec la tenue religieuse. Et ça énerve les Saoudiens. Et on a appris que la Fédération saoudienne de foot, ça leur plaisait pas, parce que eux veulent donner une autre image du pays. Ils veulent pas que on leur dise, vous êtes que des religieux. C'est pour ça qu'ils préfèrent beaucoup Ronaldo, parce que lui, effectivement, c'est la star par excellence. Mais Benzema, ça les froisse, parce qu'ils veulent changer, ils veulent dire, ce
ils
pays.
Changer leur image.
Il y a des concerts techno, il y a des festivals de cinéma, il y a Catherine Deneuve qui vient, etc.
Les femmes peuvent y aller maintenant. Même les femmes, elles peuvent aller voir un match de foot. Depuis 2019, elles ont le droit de conduire depuis 2018. Alors, évidemment, c'était incroyable. Moi, je me souviens en 2018, quand on a appris effectivement que les femmes avaient le droit de passer leur permis de conduire en Arabie Saoudite. Moi, j'avais été surprise parce que j'ignorais qu'elles ne pouvaient pas conduire. Et c'est vrai qu'on l'a salué comme une grande progression, ce qui en était une dans la société.
C'est vrai, oui.
Ouais, mais en même temps, ce qui...
On part de très loin. C'est ça qui est fascinant.
C'est ça qui est dingue.
Il faut imaginer que c'est un pays, en 5 ans, fait quasiment 100 ans d'évolution.
Mais est-ce que ça ne va pas trop vite, justement, selon vous, pour les Saoudiens?
Aux yeux de certains, aux yeux de certains qui sont un peu plus conservateurs, plus âgés. Mais je pense que pour faire bouger ce molosse, il fallait un traitement de cheval, parce que sinon, l'Arabie Saoudite allait continuer bien de régresser face à des pays comme l'Iran, etc. L'Arabie Saoudite allait peu à peu décliner. Et surtout, il avait en face de lui des jeunes. 60% de la population est jeune, donc ils le soutiennent. Les femmes, on y revenait, les femmes avant saoudiennes ne pouvaient pas sortir du pays sans être accompagnées par un tuteur. Aujourd'hui,
un mâle,
le père, le mari ou le grand frère. Aujourd'hui, la dernière fois que j'y suis allé, moi j'ai des amis français qui m'ont dit, l'épouse a dit, moi j'ai des copines saoudiennes, elles s'engueulent avec leur mari, elles le quittent et elles vont dormir à l'hôtel. Avant, c'était rigoureusement impossible. Vous pouvez, en tant que saoudienne aujourd'hui, demander le divorce sur application. Vous êtes un monsieur saoudien, vous regardez votre téléphone le matin, eh bien, vous découvrez que votre femme veut divorcer avec
sur
vous.
Sur smartphone ? Ah ben ça, c'est quand même vachement pratique. Hein,
Application. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ont acquis les mêmes droits que les hommes encore, il y a du retard, mais ça a beaucoup bougé. Ouais. Et c'est pour ça que les Saoudiennes, globalement, pas toutes, parce que certaines ne sont pas d'accord, parce que MBS impose une espèce de dirigiste comme ça, mais la plupart ont envie de le suivre dans ces réformes, parce qu'elles ont bénéficié.
Et un prince jeune, ce que vous précisez aussi dans votre livre, ce qui n'est pas le cas de ses prédécesseurs qui accédaient au pouvoir, qui étaient déjà un peu des vieux décathlètes.
Non, lui, il parie sur la jeunesse.
Oui. Non, on va se retrouver dans un instant, d'accord ? On va reprendre, se retrouver, continuer à parler de MBS. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bien évidemment, on n'aura pas le temps de tout se dire et de tout dire, Christian Cheneau, Georges Malbruno, sur Mohamed Ben Salman. Mais je conseille vraiment ce livre aux éditions Michel Lafon, que je vais rappeler dans un instant. MBS, on s'interroge quand même, parce qu'on se dit, il fait l'unanimité dans son pays, puisqu'il s'adresse aujourd'hui à des jeunes en réformant considérablement le pays. Il est lui-même un jeune prince, Christian Cheneau, ce qui n'était pas le cas de ses prédécesseurs, tout à l'heure, qui étaient un peu des vieux décati, mais donc qui, quelque part...
Ils avaient 80 ans quand ils arrivent au pouvoir.
Mais on ne peut pas s'empêcher. Alors, on n'aura pas le temps, et on invite nos auditeurs à écouter les suppléments qu'on va proposer. On n'aura pas le temps de revenir aussi sur le drame de l'assassinat de Jamal Khashoggi, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui était un journaliste dissident, qui a été assassiné en 2018, Christian Cheneau.
C'est sa tâche, c'est le péché originel.
Exactement.
Il va rester pour longtemps sa tâche de sang sur lui.
Et assassinat, il avouera, après avoir nié, avoir commandité cet assassinat. On n'a pas le temps de développer tout ça, mais néanmoins, voilà, cet homme, c'est très paradoxal, c'est à la fois de grandes réformes et en même temps des méthodes à l'ancienne et super brutales. Est-ce qu'on ne peut pas craindre à un moment donné aussi que les religieux dont vous disiez que finalement ils étaient un petit peu mis à l'écart, un peu muselés aujourd'hui, reviennent au pouvoir comme on a pu le voir chez le voisin iranien? Est-ce que vous pensez que les choses sont écrites maintenant?
Rien n'est écrit dans l'histoire, rien n'est jamais écrit. Mais son pari, il va le gagner s'il donne du travail aux gens, aux jeunes. C'est ça aussi, il y a un pari économique derrière. Hein. C'est sortir du tout religieux, sortir du tout pétrole. Hein. Donc il faut du travail pour les jeunes. 20 000 jeunes par mois sortent sur le marché du travail, c'est-à-dire 250 000 par an. Il faut donner du travail, donc créer du tourisme, des loisirs, etc. Il faut vraiment que les gens, ils veulent les mettre au travail, parce que les Saoudiens n'avaient pas l'habitude de travailler. Il faut mettre les gens au travail, c'est aussi une révolution sociétale, culturelle. Et donc, c'est pour ça qu'il va vite, et c'est pour ça qu'il propose aussi ces grands projet. Hein. On parlait de Neom, de Line, sa Riviera sur la mer Rouge, il a plein de projets à Riyad, des cités.
Il est concurrent de Dubaï, il y a un petit concours de quéquette dans la tour la plus haute.
C'est clairement
la ville. Voilà, c'est ça.
Il veut supplanter Dubaï. Voilà. Mais alors, pour raconter aussi aux auditeurs, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ouais. C'est un type qui vit la nuit, qui dort 3-4 heures.
Mais pas pour faire la bringue. Hein,
non, bosser. Et il reçoit des gens, même des gens comme Richard Attias ou des grands patrons ou même des gens importants à 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Il vit un peu. Complètement décalé. Et donc c'est un très gros travailleur et c'est vrai qu'il a beaucoup de pain sur la planche.
Et il a reçu Emmanuel Macron parce que Georges Malbruno, les relations entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, c'est pas. Alors s'il adore la France, il vient toujours régulièrement en France ou pas? Il va dans son château à Louveciennes,
oui,
là.
Oui, il a acheté son château à Louveciennes. Il connaît bien par rapport à sa jeunesse. Mais avec Emmanuel Macron, il n'y a pas vraiment d'alchimie. On raconte un peu les dessous de leur rivalité, les dessous de leur conversation, certains d'entre eux en tout cas. Dès la première fois où Emmanuel Macron le voit, MBS le prend de haut en lui disant, c'était au moment où la France voulait se rapprocher un peu de l'Iran. Mmh. Il dit, les entreprises françaises vont en Iran, elles ne viendront pas en Arabie. Emmanuel Macron répond du tac au tac, on n'a jamais parlé comme ça à un président de la République française. Donc voilà, c'est un peu deux jeunes, j'allais pas dire deux jeunes coqs, mais un peu impétueux.
Ils ont ce point commun d'avoir
hyperactif. Mais simplement, on a plus besoin de l'Arabie que l'Arabie a besoin de nous. Et on raconte comment, par exemple, Emmanuel Macron a proposé en 2022 à Jeddah, lorsqu'il a rencontré l'Italie un peu à Canossa, voire MBS, il lui a proposé un marchandage je te donne l'appui de la France pour l'exposition universelle à Riyad. Toi, en contrepartie, tu m'appuies sur le Liban et tu te réinvestis politiquement et financièrement sur le Liban. Et MBS lui a dit, écoute, je me réinvestirai lorsque le Premier ministre libanais viendra sortir son yacht de la rade de Jeddah où il se trouve. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'alchimie parce qu'on est devenu un partenaire parmi beaucoup d'autres de l'Arabie Saoudite qui a diversifié ses partenariats et qui, justement, a l'embarras du choix et courtisé un peu par la planète entière. Et avec la France, avec Macron.
Cette phrase d'Emmanuel Macron, vous ne m'écoutez pas.
Voilà.
Vous ne m'écoutez pas. Je n'existe pas.
L'autre a dit. Un peu dialogue dessous. Et puis c'est vrai qu'avec MBS, d'ailleurs, il est un peu impressionnant. C'est souvent un rapport de force. Et il a compris que l'Arabie, maintenant, c'était un grand pays, qu'il fallait le respecter. Et donc maintenant, il est toujours en transactionnel, en rapport de force avec ses interlocuteurs.
Messieurs, c'était passionnant. Comme votre ouvrage, votre enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, celui avec lequel il va falloir compter, Christian Chénaud, Georges Malbruno étaient nos invités ce soir. MBS Confidentiel, c'est aux éditions Michel Lafon. On a passé un bon moment, non?
Magnifique.
Vous reviendrez, Georges?
Avec plaisir.
Bon, vous êtes les bienvenus, en tout cas, dans cette émission. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Jonathan Griveaux, aujourd'hui aux manettes. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h pour un nouveau numéro de Jour J. Merci pour votre curiosité et votre enthousiasme. À demain.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.